Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, ce soir, notre dernière rencontre autour des enfants, la manière dont le droit peut protéger et même soutenir, aider à vivre et à se relier aux autres, les enfants, dans leur diversité, dans notre société. L'enfant, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais les enfants, c'est la réalité à laquelle nous faisons face dans nos sociétés, dans un contexte qui change beaucoup. Pour en parler tout au long de la semaine, nous avons rencontré des spécialistes, des disciplines qui traitent de la diversité des enfants. Ce soir, je suis très heureux de discuter avec Françoise Dequevert-Desfossé du droit en tant qu'il protège et qu'il soutient les enfants. Bonsoir Françoise Dequevert-Desfossé.
Bonsoir Frédéric Worms.
Vous êtes spécialiste des droits de l'enfant, du droit de la famille, mais aussi très précisément des droits de l'enfant, sur lesquels vous avez publié un Que sais-je qui fait référence. Vous l'avez enseigné et pratiqué et mêlé la recherche et l'enseignement au sein de deux universités lilloises, successivement l'Université de Lille et ensuite, pendant une dizaine d'années, à l'Université catholique de Lille. Les droits de l'enfant, pour vous, Françoise Dequevert, c'est une spécialité universitaire, mais c'est aussi une fonction bien précise dans notre société. On a besoin que l'enfant ait des droits et aussi de les délimiter, de les comprendre. Ça fait partie des enjeux essentiels. On parle souvent de psychologie, parfois de sociologie, mais assez peu du droit par rapport à l'enfant, finalement.
Alors, les droits des enfants sont peu enseignés au niveau universitaire. Il y a très peu de centres de recherche qui étudient les droits des enfants et ça n'est pas considéré comme une discipline à part entière. C'est toujours quelque chose qui vient un petit peu en raccro du droit de la famille ou du droit de l'aide sociale ou du droit de la sécurité sociale ou du droit pénal. Et il y a assez peu d'endroits où on essaie de rassembler toutes ces disciplines et de créer un discours cohérent et efficace qui permette aux enfants d'avoir des droits. C'est déjà ça la première question.
Et à leurs interlocuteurs dans la société, les professeurs, les juges, les médecins, aussi les parents, de se référer à justement un ensemble qui est unifié. Cette situation d'éclatement et de non-repérage, disons, spécifique des droits de l'enfant comme question et comme savoir, vous la regrettez? Vous pensez qu'il faudrait un peu renforcer la visibilité du droit de l'enfant ou des droits de l'enfant?
Oui, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on essaie de faire. Mais à titre d'anecdote, dans le gouvernement actuel, au départ, il n'y avait pas de ministère ni de secrétariat d'État.
Et c'est seulement au bout
À l'enfance. C'est seulement au bout de 2 ans, et sur des remarques insistantes venant notamment de la pratique, qu'on a nommé un secrétaire d'État aux droits de l'enfant. Ça montre bien que ça n'est pas du tout une idée qui vient spontanément. Et le droit est quand même un droit fait par et pour les adultes. Il est extrêmement difficile de donner une voix autonome à l'enfant. L'enfant, on le sait, c'est celui qui ne parle pas. L'enfant, c'est celui qui n'a pas de capacité juridique. L'enfant, c'est celui qui n'a pas de discernement. Et donc, il est extrêmement difficile de donner des droits à un être humain qui n'est pas en capacité de les faire valoir lui-même. C'est là toute la difficulté.
Alors, Françoise Dequevert-Desfossé, précisément, dans votre Que sais-je, il y a un premier chapitre sur le statut juridique de l'enfant. Vous venez d'évoquer un ensemble de caractéristiques de l'enfant qui peuvent fonctionner comme des définitions. Il y a l'étymologie, infance, celui qui ne parle pas, il y a celui qui n'a pas de statut juridique. C'est pas tout à fait pareil, quand même. Finalement, dans votre Que sais-je, vous adoptez une définition un peu juridique, justement. C'est jusqu'à la majorité, disons, jusqu'à la capacité d'exercer un droit. Mais avant 18 ans, on peut quand même parler, s'exprimer.
Il y a une différence entre la statut et la capacité. Le statut juridique, bien sûr que l'enfant a un statut juridique, il a un nom, une nationalité, une personnalité, etc. Mais il n'a pas la capacité, c'est-à-dire le droit juridique d'agir.
D'agir en tant que sujet de droit à la première personne lui-même.
Voilà. Et donc, il est représenté pendant toute sa minorité. Et c'est ça l'énorme difficulté de conférer des droits à l'enfant.
Donc juridiquement, la définition, le mot enfant, c'est quand même cette capacité, cette incapacité plus précisément.
Alors,
c'est-à-dire, on est enfant jusqu'à ce qu'on devienne adulte à 18 ans.
L'enfant est l'être humain de moins de 18 ans, sauf si les lois de son pays lui confèrent la majorité avant cet âge.
Voilà.
Ça, c'est la définition de la Convention internationale des droits de l'enfant.
Voilà, donc ça, c'est une définition qui donc va beaucoup plus loin que simplement la définition, disons, étymologico-biologique, par l'absence de parole. Il y a en même temps des capacités qui sont reconnues par certains nouveaux droits reconnus à l'enfance. Là, vous avez évoqué en passant, mais vous y avez consacré un très beau passage du Que sais-je et aussi dans vos articles, la question du discernement de l'enfant. On s'en remet parfois, on donne voix à l'enfant et à sa capacité, pas encore juridique d'agir, mais au moins mentale, psychique, de s'exprimer, de parler, Françoise de Quevert, des Fossés.
Oui, alors la question du discernement de l'enfant est une question très difficile et qui est à double tranchant. Le discernement, c'est la constatation que un enfant n'attend pas d'avoir 18 ans pour avoir son opinion, pour savoir ce qui, à son avis, est bien ou mal, ce qu'il convient ou non de faire. Ce discernement, il se construit progressivement. Et il advient à des âges qui peuvent varier en fonction de la question. Il n'a pas besoin d'être très âgé pour savoir que voler des sous dans le porte-monnaie de maman, ça n'est pas à faire. Mmh. Par contre, sur d'autres sujets, on va penser qu'il faut avoir atteint 13, 16 ou même 18 ans pour pouvoir émettre une opinion qui mérite d'être prise en cause.
Et le droit, Françoise de Quevert-Desfossés, établit ses limites d'âge, établit des seuils en deçà et au-delà desquels on franchit tel ou tel degré de légitimité à parler, à s'exprimer dans la vie de
la
famille, par exemple.
Alors, dans la vie de la famille, oui et non. Par exemple, en matière de changement de nom, si les parents veulent faire changer à l'enfant son nom, il doit donner son accord à partir de 13 ans.
Ah, il y a un seuil finalement.
Il y a un seuil qui est fixé. Mais ce que je voulais dire sur le discernement, c'est que dans certains cas, le discernement va ouvrir à l'enfant des capacités, mais dans d'autres cas, au rebours, on va se servir du discernement pour lui imputer une responsabilité. Et par exemple, à l'heure actuelle, il y a une querelle autour de la responsabilité pénale de l'enfant. La responsabilité pénale, au jour d'aujourd'hui, pèse sur tout enfant doté de discernement. Donc le fait de lui reconnaître le discernement, ça n'est pas seulement un cadeau.
Ça n'est pas anodin, oui, c'est à double tranchant.
C'est tout à fait à double tranchant.
Mais ça lui donne une légitimité, mais aussi une responsabilité.
Absolument.
Et alors, on va revenir, Françoise de Quevert-Desfossés, si vous en êtes d'accord, sur certains changements dans la famille. On va prendre le temps aussi de poser les cadres juridiques qui permettent justement de soutenir, de répondre à certains changements, aussi définir la famille. Pour revenir, puisqu'on est parti dans cette direction, sur ces seuils, dans votre Que sais-je, bien sûr, vous examinez aussi, disons, non pas seulement la fin, le moment où l'enfant devient adulte, même pas seulement ces seuils, mais aussi le tout début et même avant, c'est-à-dire un enfant qui n'est pas encore né, est-ce que c'est déjà un enfant ? Il y a la question du statut juridique de l'enfant dans le ventre de sa mère, qui est aussi au cœur de beaucoup de sujets. Là il faudrait, c'est important aussi, le droit est ce qui nous permet de penser et surtout de respecter les différents statuts dans nos différents âges de la vie.
Oui, alors l'enfant dans le ventre de sa mère... Il est dans une situation extrêmement ambiguë parce que...
Il y est pour rien, Françoise de Quevert-Desfossés.
Il y est pour rien.
Il est là.
Il est là, mais on ne peut rien faire. Si vous voulez, la difficulté, c'est que si on reconnaît des droits au fœtus, ces droits vont impacter la liberté de la mère. L'exemple type, qui est un exemple qui n'est pas du tout récent, c'est celui de la femme qui veut recourir à une interruption de grossesse et son compagnon, qui est le père du... enfin, le géniteur du fœtus, ne le souhaite pas. Eh bien,
le droit intervient d'ailleurs toujours, pardon de vous interrompre, dans des situations où il y a du conflit. Il est fait pour régler des conflits, précisément.
Toujours.
Voilà, c'est sa
toujours.
Fonction.
Et dans cette situation-là, eh bien, il est clair qu'on va préférer la liberté de la mère.
Donc, dans les limites de la loi, évidemment.
Bien sûr. Mais ça n'est jamais au géniteur de donner son avis dans ce genre de circonstances.
Donc on considère l'enfant, vous citez d'ailleurs dans votre Que sais-je, et vous mettez en tension deux adages du droit romain, déjà très anciens. On considère l'enfant comme une partie du corps de la mère, c'est ce que dit cet adage romain que je n'ai plus exactement en tête. Et puis il y a un autre adage romain qui dit qu'il faut traiter l'enfant comme une personne au moins potentielle. Et ça c'est maintenant dans nos lois, dans la loi de bioéthique, on parle, enfin la notion de personne potentielle en tout cas est bien... quelque part dans
oui,
notre droit.
Oui, mais on n'en tire pas beaucoup de conséquences.
Mais est-ce que c'est possible d'en tirer des conséquences?
Je crois que ce serait très dangereux. Si vous voulez, le système juridique, c'est quelque chose qui est extrêmement bien verrouillé, très efficace. Donc, le droit va considérer l'enfant comme existant depuis la conception, mais seulement s'il naît vivant et viable. Donc, tant qu'il ne naît pas vivant et viable, eh bien, on ne se prononce pas sur le statut juridique du fœtus. Enfin, on se prononce le moins possible sur le juste.
Ça impliquerait beaucoup de choses, de la métaphysique. Et le droit ne fait pas de métaphysique. Le droit doit justement trancher des conflits.
Et alors, donc, jusqu'à la naissance, a priori, le conflit est tranché en faveur de la mère pour préserver sa liberté. Et après la naissance, évidemment, l'enfant ayant acquis une vie autonome, il va avoir à son tour une personnalité à être protégée. Mais il y a beaucoup de tentatives de brider les libertés essentielles des mères au nom de l'enfant à venir. Et on voit bien qu'il y a une pression sociale formidable. Alors, on va dire, par exemple, que la femme ne doit pas boire, ne doit pas fumer, ne doit pas se livrer à des sports dangereux, etc. Et on voit bien que dans tout cela, on cantonne la femme, on la limite au nom d'un tiers. Et ça peut aller... très loin, et c'est pour le moment tout à fait étranger notre façon à nous de penser.
C'est là aussi, Françoise de Quever-Desfossés, vous êtes professeure de droit, je le rappelle, spécialiste des droits de l'enfant. C'est là aussi la spécificité du droit, parce que par exemple, si un médecin, dans son exercice de la médecine, conseille à une femme enceinte de ne pas prendre trop d'alcool, de ne pas fumer, de ne pas mettre en danger son enfant, il en a non seulement le droit, mais le devoir, ce médecin.
Tout à fait.
Mais par contre, la société... d'après ce que vous venez de dire, n'a pas ferait violence à l'une en l'occurrence en imposant une limite au nom des droits de l'autre dans ce cas précis.
Tout à fait.
Il y a deux figures, le médecin et le juriste, c'est pas pareil.
Ça n'est absolument pas pareil, c'est certain. Mais aux États-Unis, on n'en est pas là. Aux États-Unis, on interdit par exemple aux serveurs dans les cafés de servir de l'alcool à une femme enceinte.
Donc la loi, si un serveur qui n'aurait pas remarqué ou n'aurait pas tenu compte ou se serait laissé convaincre par une personne,
il peut être poursuivi
s'il a servi un verre de vin à une femme enceinte.
Oui. Ça, c'est un autre aspect de choses auxquelles je m'intéresse parce que j'ai beaucoup travaillé les droits de l'enfant, mais j'ai aussi travaillé un peu les droits des femmes et je suis très sourcilieuse sur tout ce qui concerne le pouvoir que la société s'arroge sur le corps des femmes dans la perspective de la maternité, du renouvellement des générations. Il y a quand même un véritable asservissement des fonctions maternelles à la société et je pense que le médical peut être une
voie d'entrée d'un pouvoir qui ne se cantonne pas aux soins, effectivement.
Tout à fait. Et donc, comme vous le disiez, Frédéric Vance, tout à l'heure, le droit intervient toujours en situation de conflit. Donc, on est toujours en train d'arbitrer des intérêts concurrents. Il faut que les droits de l'enfant ne soient pas systématiquement négligés, mis au second rang, parce que c'est quand même un petit peu la pente naturelle des choses. C'est-à-dire que nous vivons dans un monde qui est gouverné par les adultes prennent des décisions.
Malheureusement, ça, quand même, les enfants ne peuvent pas nous le reprocher non plus.
Absolument. Les choses sont comme ça. Mais lorsque les adultes prennent des décisions, eh bien, ils les prennent avec leur point de vue d'adulte, leur raisonnement d'adulte, et ils ne tiennent pas forcément compte de ce que ça peut représenter pour l'enfant.
Mais alors justement, Françoise de Quevert-Desfossés, on pourrait penser que dans ce que vous venez de dire, il y a, je dirais pas une contradiction, mais il y a au contraire les éléments, les tensions, les différences, les relations dont le droit doit tenir compte. Vous veniez de dire qu'il faut donner la priorité à la liberté de la femme, se méfier de l'intrusion du biologique dans le droit. D'un autre côté, vous venez de dire qu'il faut penser à l'intérêt de l'enfant, penser au droit de l'enfant. La fonction du droit, vous le dites aussi dans un très bel article sur les familles recomposées, vous dites « Définir les liens qui unissent les personnes est un préalable indispensable à la délimitation de leurs droits et devoirs respectifs.
Oui. »
Définir les liens qui unissent les personnes, le droit nous aide parce que finalement on a chacun une perception, mais comme dans le cas de Salomon qu'on cite toujours, du jugement de Salomon, comme vous le disiez aussi, il y a des conflits. Et au fond, la définition juridique est fondamentale.
Et alors, il y a des conflits, et puis il y a beaucoup de situations qui sont très indéterminées. Mmh. Et notamment, l'article dont vous parlez se porte sur les familles recomposées. Et ça fait 25 ou 30 ans qu'on cherche à trouver un statut juridique pour les familles recomposées.
Par exemple, fondamentalement pour la figure des beaux-parents.
Voilà.
Donc ce terme très compliqué en français et la langue elle-même est un témoin de cette...
Qu'est-ce que c'est qu'un beau-parent ?
Alors, nous n'avons pas encore défini les parents et la famille, Françoise de Quevert-Desfossés. On va y venir. Commençons par le problème. Commençons par... Voilà. Et c'est une question que tout le monde se pose. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un beau-parent ?
Qu'est-ce que c'est qu'un beau-parent ?
Une belle-mère, un beau-père.
Et pour donner des droits à quelqu'un, il faut qu'il y ait une qualification juridique. On ne va pas donner n'importe quel droit à n'importe qui. Si on donne des droits à une personne, c'est parce qu'elle remplit un certain nombre de conditions qui justifient qu'elle exerce ses droits.
Dans une relation aux autres en particulier.
Par exemple. Donc, on dit... l'enfant qui vit avec un beau-père ou une belle-mère qui s'occupe de lui, il est normal que ce beau-père ou cette belle-mère se voit reconnaître la fonction éducative qu'elle exerce. Je veux bien. À partir de quand un beau-père ou une belle-mère exerce-t-il une fonction éducative ?
Alors voilà, Françoise de Quevert-Desfossés, nous voilà un peu lancés. L'enfant, comme le disent les psychanalystes, n'existe pas tout seul. Il n'y a pas d'enfance sans parents, il n'y a pas d'enfance sans famille. Oui, il y en a qui n'ont pas de famille, mais disons, justement, c'est une manière de les définir toujours par rapport à la famille. Le parent... Et la parentalité, c'est pas exactement pareil. Le beau-parent ne l'est peut-être pas biologiquement, ni reconnu par la filiation juridique. Ça va passer par la parentalité, plutôt par l'éducation, avec ce flou que vous évoquez. Mais avant d'y revenir à ce beau-père ou à cette belle-mère, qui éduque, qui soigne peut-être, qui est dans la parentalité, comment est-ce qu'on définit la parenté officielle, la filiation, la famille, d'une façon, disons, le noyau dur ?
Alors, la famille s'est longtemps fondée sur le mariage. Une famille, c'était deux époux qui, ensemble, avaient des enfants. Et par le jeu naturel de la vie, ça crée tout un réseau d'enfants, de beaux-enfants, de petits-enfants, d'oncles, de grands-parents, etc.
Oui, là, ça a toujours été compliqué. Il y a toujours eu, vous le dites très bien d'ailleurs, des recompositions à partir des deuils, des remariages.
Tout à fait, tout à fait. Mais ce qui était important, c'était l'union.
L'union.
Aujourd'hui, la famille, elle se fonde sur la filiation. Donc, il y a famille à partir du moment où il y a un lien de filiation entre un adulte et un enfant.
Reconnu par la loi, par la société.
Reconnu par la société au travers de la loi. Alors, sur quoi repose ce lien de filiation ? C'est là qu'on entre dans des complications infinies. Parce que jusqu'à seulement un gros demi-siècle, la filiation, quelle qu'elle soit adoptive, qu'elle soit mensongère, quel que soit le type de filiation, la filiation représentait le modèle, qui est le modèle naturel de la conjonction des sexes, de l'engendrement. Et donc, il y avait père, mère...
On peut même dire qu'elle le représentait en un sens très simple, c'est-à-dire qu'il y a un premier niveau, disons, entre les corps, et puis après, la société le représente à un autre niveau entre des sujets de droit. Et là, c'est un peu plus compliqué aujourd'hui.
Alors, bien sûr que cette représentation ne correspondait pas toujours à la réalité, mais en termes de représentation, ça fonctionnait de manière assez cohérente. Les choses ont commencé à devenir beaucoup plus compliquées à partir du moment où il y a eu des inséminations avec donneurs. Parce que là, on a décidé que le lien de filiation serait un lien identique à un lien de génération,
oui.
Alors qu'il n'est pas du tout fondé dessus.
Alors qu'il manque l'étape, disons, justement, de la conception de l'engendrement biologique.
Alors,
on reconnaît comme père quelqu'un sans passer par l'étape.
Alors, ce n'était pas encore trop grave, parce que l'adoption fonctionne sur le même modèle. Mm-hmm. Après tout, il y a une mère, il y a un père. La mère n'est peut-être pas celle qui a fourni l'ovocyte. Le père n'est peut-être pas celui qui a donné le sperme. Mais on se trouve en présence d'un père et d'une mère. Et donc, on va faire comme si ils avaient engendré l'enfant. Alors, bien sûr que c'est faux. Mm-hmm. Bien sûr que ça peut poser des problèmes. Et bien sûr que les enfants, quand ils découvrent qu'ils ne sont pas nés de l'homme qui les élève, mais d'une paillette congelée, le prennent de manière diverse.
C'est-à-dire dans leur représentation, précisément, puisque c'est une représentation relationnelle, voilà, qu'ils découvrent qu'ils n'en ont pas qu'une, mais qu'il y en a deux, et qu'on a fait une fiction, comme si ces deux relations n'en faisaient qu'une.
Dans certains cas, eh bien, ils digèrent ça très bien. Dans d'autres cas, ils le digèrent très mal. Et moi, j'ai connu au moins une personne née d'une insémination avec donneur dont j'ai vu la dégradation psychique d'année en année. C'était épouvantable.
À cause de ce flou, Françoise de Quever-Desfossés, à cause du fait que ni la médecine, ni le droit, ni la société...
Parce qu'on ne voulait pas lui dire de qui elle était.
Voilà, il faut peut-être situer dans l'histoire, dans quelles années vous se situez. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on est en train...
Aujourd'hui, c'est tout. C'est pire que jamais.
C'est pire que jamais, aujourd'hui, vous dites...
Aujourd'hui, c'est pire que jamais, parce que la loi interdit absolument de connaître l'identité du donneur de sperme. Mais par ailleurs, il y a des quantités de manières détournées, notamment par les banques
maintenant,
américaines,
par
etc. Et donc, il y a une espèce de dysfonctionnement entre la loi qui est extrêmement rigide et puis la pratique qui permet de retrouver des demi-frères, des demi-sœurs, même de retrouver l'auteur du don. Et tout ça dans un désordre épouvantable. Au préjudice, alors, avec des injustices, parce que quand quelqu'un a retrouvé ses auteurs et que quelqu'un d'autre de la même association ne les retrouve pas, pourquoi ?
Voilà, et le droit donc va peut-être nous aider à répondre à ces situations qui, et même le doit certainement nous aider à répondre à ces situations qui sont devenues plus compliquées. Nous allons en reparler, Françoise de Quever-Desfossés, après avoir entendu une chanson à la fois idyllique et un peu ironique que je vous remercie d'avoir proposée pour jalonner notre conversation.
Je vous écris une petite bafouille pour pas que vous vous fassiez de mourons. Ici on est aux petits oignons, j'ai que 8 ans mais je me débrouille. Je tousse un peu à cause qu'on avale la fumée de l'usine d'à côté. Mais c'est en face qu'on va jouer dans la décharge municipale.
Les jolies colonies de vacances.
Pour becter, on nous met à l'aise, c'est vraiment comme à la maison. Les faillots, c'est du vrai béton, j'ai l'estomac comme une falaise. Le matin, on va faire les poubelles, les surveillants sont pas méchants. Ils ronflent les 3/4 du temps, vu qu'ils sont ronds comme des queues de pelle.
France Culture, matière à penser,
Frédéric Borne.
Matière à penser, les enfants, des jolies colonies de vacances, de la chanson de Pierre Perret que Françoise de Quevert Desfossés, avec qui nous parlons ce soir, spécialiste des droits de l'enfant, vient de nous proposer ces jolies colonies de vacances qui, Françoise de Quevert Desfossés, sont quand même très ironiques dans la bouche de Pierre Perret. Quelle était votre intention en choisissant cette chanson? C'était de nous montrer que finalement, l'enfant, ça a toujours été compliqué et tout un univers d'expérience que le droit cherche aussi à protéger.
Oui, c'était aussi pour rappeler que à l'heure actuelle, nous sommes très exigeants quant aux conditions de vie des enfants. Nous voulons le meilleur pour eux. Nous sommes tout à fait scandalisés quand on apprend qu'une petite fille de 6 ans est restée seule pendant une heure dans l'appartement. Mmh. Et cette protection, elle est certainement bénéfique pour la santé des enfants, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit aussi bénéfique pour leur développement, parce que ils étaient plus libres autrefois.
Alors, Françoise de Quevert Desfossés, je le rappelais au début de notre conversation, vous avez enseigné et fait des recherches sur le droit de l'enfant successivement à l'Université de Lille et à l'Université catholique de Lille. Dans un de vos articles, au titre très important à mon avis, « Enjeux éthiques des transformations juridiques de la famille », donc il y a des enjeux éthiques du droit de l'enfant, vous rappelez que, je vous cite, hein, « En France, seules les universités catholiques proposent des programmes d'enseignement d'éthique familiale, ce qui n'est pas vraiment propice à la reconnaissance d'un sujet de recherche proprement universitaire. » Parce qu'on a l'impression, en effet, que le droit de l'enfant, le droit de la famille est pris jusque dans l'université, dans des partages qui peuvent devenir idéologiques ou en tout cas qui peuvent biaiser, et que pour vous, le droit de l'enfant, le droit de la famille, ça devrait être un objet commun de réflexion, une discipline précise. Ça s'impose de plus en plus aujourd'hui où les familles, justement, sont de plus en plus compliquées, Françoise de Quevert Desfossés.
Oui, l'éthique de la famille, ça fait peur parce que ça fait tout de suite référence à des prescriptions morales qui sont extrêmement rigoureuses et qui ne semblent plus du tout en harmonie avec la manière dont les gens vivent aujourd'hui. Et du coup, l'objet même est disqualifié, alors qu'il y aurait certainement lieu à faire des réflexions sur la manière de se comporter éthiquement dans une famille, parce que vous parliez à l'instant des abus. Bien, la question des abus, ça fait partie de l'éthique de la famille. La question des abus de pouvoir, la question de ce qu'on appelle l'aliénation parentale.
Alors l'aliénation parentale, est-ce que vous pouvez nous la définir, Françoise de Quevert Desfossés, comme exemple d'abus? Parce qu'on pense souvent à la maltraitance ou aux abus sexuels, mais...
Alors l'aliénation parentale, c'est la situation dans laquelle, à la suite d'une séparation, l'un des parents réussit à exercer sur l'enfant une emprise psychologique, de telle sorte que l'enfant soit amené à vouloir rompre tout lien avec l'autre parent, qu'il se met à détester. Mmh. Et c'est une situation qui est extrêmement difficile et douloureuse.
Donc on sème dans l'esprit de l'enfant la haine, presque même, de l'autre parent.
Tout à fait. On le persuade que l'autre parent lui veut du mal, et qu'il ne l'aime pas, bien sûr. Et l'enfant, bien sûr, entre dans cette logique.
Parce que justement, Françoise de Quevert Desfossés, un point évidemment auquel tout le monde pense, c'est une vulnérabilité particulière de l'enfant, y compris psychiquement, une dépendance vis-à-vis des adultes, d'ailleurs de diverses sortes d'adultes. Et dans les différentes recompositions familiales, comment est-ce que le droit peut justement protéger toutes ces vulnérabilités? Dans l'exemple que vous venez de prendre, je vois aussi un progrès par le droit, un progrès juridique. C'est-à-dire, au fond, on identifie des problèmes.
Oui, mais on n'a pas la solution.
Et on doit les nommer. Bah, déjà, les nommer, c'est déjà quand même un progrès.
Ben non, on n'a pas la solution. Parce que l'enfant étant sous l'emprise, si on le sépare de la personne, de celui des parents qu'il a mis sous une emprise, eh ben, il va aller très mal. Et si on le confie à l'autre parent qu'il a appris à détester, il ira très mal.
Donc ce que vous dites, c'est que le droit arrive peut-être, comme on dit dernière fois de la philosophie, un peu trop tard. Il arrive quand le tort est déjà fait.
Le droit ne peut pas tout. Le droit ne peut rien contre le manque d'amour, contre la méchanceté, contre la haine, contre la jalousie, et contre les perversités. Le droit peut essayer de pacifier les rapports, mais si les intéressés ne veulent pas se saisir des outils de pacification, s'ils aiment leur haine plus que tout au monde...
C'est très impressionnant ce que vous décrivez, mais je vais quand même plaider votre propre cause encore un peu, Françoise de Quevert-Desfossé, parce que je pense que le droit peut quand même... Un peu, c'est pas tout ou rien, mais associé à d'autres pratiques, par exemple si les médecins, les proches détectent des soucis, le pouvoir de nommer la chose, l'aliénation, déjà au moins permet aux parents, par exemple, qui est victime, qui ne comprend pas bien pourquoi son enfant se met à le détester, au moins de comprendre que non seulement il y a un processus précis que la psychanalyse ou la psychologie peut décrire, mais que le droit même reconnaît ce tort qui lui est fait. Et ça, ça n'est pas rien quand même, Françoise de Quevert-Desfossé.
Non, je n'ai pas dit que le droit ne peut rien, mais on demande souvent trop au droit. Et en matière de droits de l'enfant, on proclame beaucoup de droits de l'enfant, mais si ces droits sont méconnus par son entourage, eh bien c'est extrêmement difficile de réagir. Parce que quand un enfant, par exemple, est maltraité, si on le retire de sa famille... C'est pas forcé qu'il aille mieux.
Et bien sûr, puisque la maltraitance n'est pas n'importe quelle violence, finalement. C'est une violence qui intervient dans une relation qui devrait être de soins et d'amour.
Absolument.
Et donc, en fait, on est pris dans une sorte de double lien.
Absolument. Et vous avez des enfants, vous avez des mesures d'assistance éducative qui doivent s'arrêter, parce que
sur on le papier... On pèse le pour et le contre, finalement.
Oui, mais sur le papier, elle devrait fonctionner, et concrètement, l'enfant s'y refuse et ne n'adhère pas. Donc, quand on, par exemple, un enfant est maltraité dans sa famille, il est placé, il fugue pour rentrer chez ses parents.
Que fait le juge qui n'est pas Salomon, celui qui en France s'appuie sur les droits que vous décrivez très bien dans votre que sais-je, qui ne sont pas seulement les droits de l'enfant.
Il essaie de faire peur aux parents.
Le code de la famille, il essaye de...
Il essaye d'expliquer aux parents que l'enfant ne doit pas être maltraité, mais il y a des limites malheureusement assez vite atteintes et on demande beaucoup aux droits. Et on lui demande de légitimer toute une série de choses. Et il ne suffit pas que le droit légitime quelque chose pour que cette
chose... Ça aide l'effet, finalement. Ça rentre en pratique immédiatement.
Oui.
Mais le rôle du droit, Françoise de Quevert-Desfossé, c'est aussi... ça n'est pas de tout résoudre, bien sûr. Il faut que toute la société mobilise différentes forces pour que ce soit possible. L'éducation, la médecine et bien d'autres. Mais est-ce qu'il ne fournit pas malgré tout un cadre ? Est-ce qu'on peut aujourd'hui être rassuré sur le cadre et sur ce que vous appelez aussi la réponse à la désinstitutionnalisation de la famille ? Est-ce qu'on a aujourd'hui suffisamment de cadres pour que, tant bien que mal, finalement, chaque enfant, dans leur diversité des enfants aujourd'hui, se sente situé justement quelque part dans la société ? Est-ce qu'au moins ce cadre minimal vous semble... possible, au moins, disons, dans les pays démocratiques, dans cette période du XXIe siècle ?
Je ne saurais le dire. Je ne saurais le dire parce que je vois arriver des transformations de la famille dont j'ignore totalement si elles vont ou non permettre aux enfants de se situer. Alors, je parle, vous vous en doutez bien, de la question des filiations dans les ménages de même sexe et de la filiation à l'égard des personnes transgenres. Quand vous avez un enfant dont le père est une femme, comment...
Dont les deux parents sont deux femmes, en tout cas. Est-ce qu'on dirait le père est une femme ?
La question du langage est une femme.
La question du langage est évidemment...
Oui.
Ah oui, à cause du transgenre, bien sûr.
Parce que le père l'a engendré quand il était homme.
Bien sûr, oui.
Il est donc père. Oui. Et ensuite, il devient...
Pardon, je m'étais trompée d'exemple, effectivement.
Non. Alors, la question de l'enfant qui a deux mamans ou deux papas, c'est une autre question.
Tout à fait. Mais revenons, pardon, à votre exemple.
Et je pense que la question de l'enfant qui a deux papas ou deux mamans est peut-être moins lourde que la question de l'enfant dont le père devient une femme. Parce que c'est très difficile pour l'enfant. Alors, dans certains cas, ça peut fonctionner, mais... ce qui se passe aussi, c'est que, en fonction de ces cas qui sont minoritaires, on en arrive à repenser tout le droit de la filiation. Mmh. On en arrive à parent 1, parent 2. Donc, à plus distinguer la maternité et la paternité. Est-ce que c'est un cadre plus sécurisant d'avoir un parent que d'avoir un père, une mère?
Alors, c'est la question qu'on est en droit de se poser, c'est le cas de le dire, en droit de se poser. Françoise de Quevert-Desfossés, vous disiez pourtant qu'aujourd'hui, le pilier de la famille, pour tous les enfants, parce qu'il y a des situations compliquées de plein de sortes, comme vous l'avez très bien montré, c'est la reconnaissance juridique, c'est le lien de filiation. Est-ce que la société, en établissant le lien de filiation, dans ces situations nouvelles, est-ce qu'elle fragilise ou est-ce que néanmoins elle sécurise tant bien que mal? Quand on dit le père, si le père est devenu une femme dans ces situations, il reste le père parce que le droit le dit, justement.
Oui.
Peut-être que le biologique change le genre, justement, dans le langage, mais le droit donne un cadre.
Le droit donne un cadre, mais il ne suffit pas que ce cadre existe, il faut encore qu'il soit acceptable et accepté.
Y compris, alors par l'enfant, bien sûr.
Par l'enfant,
il y a la question de l'intérêt de l'enfant, sur lequel je voulais aussi vous poser une question, parce que c'est une notion qui est cruciale aujourd'hui dans tous les débats. Mais est-ce que le fait que la société accepte ou non ce type de relation n'est pas aussi fondamental pour l'enfant lui-même? Le cadre, la légitimité sociale, disons, de ces...
Oui, alors effectivement, on peut dire que les enfants élevés par les familles homosexuelles existaient et que le fait d'être juridiquement reconnu va stabiliser les choses, mmh, et leur donner une légitimité. De même que le mariage pour les personnes de même sexe a, contribué à normaliser complètement la situation de ces couples. Alors, s'agissant de l'enfant, il reste quand même une difficulté qui, à mon avis, n'est pas petite. C'est que nous sommes dans une société technicienne, et cette société notamment médicale, et cette société au titre de la médecine définit de plus en plus chacun par ses gènes.
Mmh. Ah oui, bien sûr. Donc et là, ça vient justement perturber le droit.
Et justement, pendant des siècles, on a raisonné sur des probabilités d'engendrement. Aujourd'hui, où on connaît la vérité, on ne veut plus en tenir compte. Mmh. Mais les enfants qui auront deux mamans et qui ne connaîtront jamais leur géniteur ne vont-ils pas éprouver le sentiment d'être injustement discriminés le jour où leur médecin leur demandera si leur père était diabétique, hypertendu ou autre chose?
Alors justement, la loi de bioéthique et certainement un certain nombre de dispositifs, et beaucoup en seront juridiques, sont faits pour répondre à ce genre de problème posé effectivement par des situations techniques et que la société en effet a reconnu déjà dans les couples hétérosexuels, effectivement. Mais Françoise de Quevert-Desfossés, le temps passe vite, les inquiétudes très vives que vous venez de mentionner, est-ce que vous les référez à cette notion qui est au cœur des débats de l'intérêt de l'enfant, l'intérêt supérieur, dit-on parfois, de l'enfant?
L'intérêt supérieur de l'enfant.
On parlait au début, il faut tenir compte des différents droits de tout le monde, mais l'intérêt de l'enfant, c'est aussi sa voix que l'on cherche à exprimer.
Quel est l'intérêt de l'enfant? Eh bien, chacun en a son idée.
Mais pour vous, le juriste?
Pour moi, le juriste, l'intérêt de l'enfant, c'est une notion contextuelle. Et donc, je ne peux pas dire, de manière abstraite et générale, quel est l'intérêt de l'enfant. Vous ne me ferez pas dire que c'est l'intérêt de l'enfant de connaître l'identité de ses géniteurs. Dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, non. Mmh. L'intérêt de l'enfant, c'est toujours l'intérêt d'un enfant particulier dans une situation particulière. Mais la difficulté, c'est que chacun apprécie cet intérêt à la lumière de sa subjectivité, de son idéologie, de son propre passé, etc. Et on voit bien, je reprends l'exemple malheureusement très banal des séparations conflictuelles, de toute bonne foi, chacun des deux parents oui. a souvent une idée très différente de ce qu'est l'intérêt de l'enfant.
Bien sûr, c'est un objet de conflit, mais alors...
Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faudrait plus souvent demander à l'enfant son avis. Parce que on ne lui demande jamais son avis. Pas jamais. Pas assez souvent.
Alors on revient à cette notion même. L'enfant, vous venez de dire qu'il n'y a que des situations particulières, il y a aussi des âges, des capacités diverses. On est obligé aujourd'hui d'introduire de nouvelles distinctions, et y compris pour faire parler les enfants qui sont oui. pourtant, dans le mot même, censés ne pas parler.
Oui, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe, mais... Vous ne me ferez pas croire que des enfants, surtout s'ils ont au-delà de 12 ans, n'aient pas une opinion mais tout à fait précise sur ce qu'ils souhaitent vivre, comment ils souhaitent vivre lorsque leurs parents se séparent. Alors, souvent, cette opinion est exprimée et prise en compte de manière informelle, notamment dans les divorces d'accord, par consentement mutuel. Mais il y a des situations dans lesquelles les deux parents se battent comme des chiffonniers et la parole de l'enfant peine à se faire entendre dans ces cas-là.
Et à vous écouter, Françoise de Coeur-des-Fossés, on comprend que les droits de l'enfant, c'est le titre de votre Que sais-je, sont un enjeu essentiel dont on peut comprendre qu'ils bougent, mais en même temps, il faut qu'ils gardent leur stabilité. Pour terminer cette conversation, je pense qu'il faudrait en appeler à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire à ce que ça devienne une discipline ou en tout cas un champ de réflexion précis avec les autres disciplines autour. Vous parlez de l'éthique, de la philosophie. Il faut le secours de la médecine qui apporte des faits, qui détermine des seuils de capacité. Il faut sans doute la psychologie. À quoi est-ce que vous appelleriez aujourd'hui comme travail aussi de sciences sociales, de réflexion collective et dans notre société pour répondre à ces défis?
Alors, moi, je ne sais pas si c'est un travail collectif, je pense que c'est plutôt une écoute attentive. Et quelque chose qui me frappe, c'est que en France, nous avons un défenseur des enfants qui émet des recommandations.
Et ces recommandations. Il est devenu le défenseur des droits, c'est ça, non?
Alors, il est intégré absorbé, dans le défenseur. Voilà. Mais il reste une personne.
Il y a un
défenseur des enfants. Et ces recommandations, elles ne sont pas très souvent suivies d'effet, parce qu'il y a d'autres considérations beaucoup plus importantes qui entrent en jeu. Et je pense que, par exemple, le défenseur des enfants avait émis de très vives réticences quant au divorce sans juge lorsqu'il y a des enfants, estimant que c'était quand même une bonne chose qu'un juge vérifie l'accord des parents concernant la vie de l'enfant. Bien sûr que non. De même pour les mineurs non accompagnés, le problème des mineurs étrangers, le défenseur des enfants a rendu toute une série de décisions qu'on ne peut pas, pour d'excellentes raisons, respecter.
D'excellentes raisons, j'entends votre ironie, comme dans la chanson de Pierre Perret, Françoise de Coeur-des-Fossés. Donc il faut non seulement écouter, mais respecter le défenseur des enfants. Vous en faites partie, Françoise de Coeur-des-Fossés, vous qui avez écrit ce Que sais-je important sur les droits de l'enfant et des articles que je recommande aussi vivement. Merci infiniment d'être venu en parler ce soir. Matière à penser, c'était notre dernière rencontre sur les enfants avec Françoise de Coeur-des-Fossés, avec et grâce aussi à Alain Joubert, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Lévigne, Frédéric Vin. Et dès lundi, vous retrouverez René Friedman au micro de Matière à penser. À bientôt.